À l'heure où l'on tente de repenser notre modèle de développement et notre relation à la nature, l'Australie s'interroge. Pour certains, l'environnement, c'est d'abord les ressources économiques. Et à ce titre, l'Australie ne manque pas de richesses, notamment sur le plan minier. Et de l'autre côté, il y a la vision des premiers habitants, les aborigènes, qui considèrent que la terre est avant tout une ressource spirituelle et culturelle qu'on ne peut pas creuser ni déranger impunément. Dans cette Australie où l'exploitation des mines cristallise à elle seule toutes les questions identitaires, économiques, écologiques et historiques, où en sont les aborigènes dans leur combat pour sauver leur terre? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite sur ce reportage de Caroline Lafargue.
Vous voyez les monticules là-bas? Eh bien, il y a des sources au sommet de ces monticules. Avant, l'eau, elle était abondante. Mais depuis que la mine pompe l'eau... Enfin bref. Au temps de la création, notre ancêtre serpent vivait ici. Un jour, un serpent étranger est arrivé. La tribu était partie à la chasse. Quand les hommes sont revenus et ont découvert l'étranger, ils ont voulu le tuer, mais ils se sont trompés. Ils ont tué notre vieux serpent. Et ils ont jeté la tête du vieux serpent là-bas, qui est devenu ce monticule ici.
Comment vous vous sentez ici?
Je suis triste parce que la destruction continue et la compagnie minière ne comprend pas notre attachement aux sources.
Uncle Kevin Bezakot est l'un des leaders du peuple Arabuna. Uncle Kevin Bezakot et son ancêtre serpent vivent en plein désert, dans le nord de l'État d'Australie méridionale. Ils ont une illustre voisine, Olympic Dam, la plus grande mine d'uranium au monde. Face aux pelleteuses voraces de la compagnie minière BHP Billiton, ces sources sacrées semblent bien fragiles. Elles symbolisent un décalage extrême entre deux mondes qui s'affrontent un peu partout sur le territoire australien. Le monde spirituel aborigène, incarné dans la terre, et le monde économique et minier. Richard Yills est le responsable des relations avec les communautés aborigènes à BHP Billiton. La compagnie prépare activement l'expansion d'Olympic Dam pour obtenir le feu vert du gouvernement. Elle a dû gagner le soutien des peuples riverains avec un message immuable: nous vous sortons de la pauvreté.
Sur les 20 dernières années, nos prédictions ont été vérifiées. L'activité de la mine ne nuit pas aux Mount Springs. Vous verrez que nos stations de pompage ne surexploitent pas les réserves du grand bassin artésien. Après, en ce qui concerne les droits aborigènes, nous suivons la loi sur le patrimoine aborigène. On fait même plus que ce qui nous est demandé. Par exemple, la loi ne nous oblige pas à montrer aux aborigènes les sites que nous envisageons de creuser pour développer la mine. Eh bien, nous, on le fait. On a conclu un accord qui nous autorise à étendre la mine et qui, en même temps, leur garantit des royalties annuelles via un fonds public pour financer l'éducation, la formation, la santé, les retraites. Nous améliorons leur qualité de vie. Mais je ne peux pas vous en dire plus, car cet accord entre BHP Billiton et les groupes aborigènes est confidentiel pour le moment, car il n'est pas encore entré en vigueur.
Aujourd'hui, la terre est devenue une source de royalties pour les aborigènes. Mais qu'est-ce qui justifie cette compensation financière? Que dédommagent réellement les compagnies minières? En réalité, les activités minières rompent un lien ancestral tout à fait particulier à cette terre ocre, là où tout a commencé. Initiation au temps du rêve avec l'anthropologue Jessica Delargy-Haley.
Il y a un concept qui se retrouve chez la plupart des peuples aborigènes australiens. Donc je rappelle qu'il y avait environ 500 groupes différents, qui avaient des cultures et des langues très différentes, et qui partagent pour la plupart un concept qu'on traduit en français par le temps du rêve, dreaming en anglais, qui se réfère en fait à un temps mythique de création du monde et des grands ancêtres qui ont à la fois créé le paysage et légué certains sites du paysage à des groupes aborigènes particuliers, comme un héritage sacré. Cette relation à la terre passe, c'était des populations nomades, donc qui vivaient de chasse et de cueillette et de pêche pour ceux qui sont sur les côtes. Les groupes avaient le droit de chasser, de pêcher, de collecter les ressources à des endroits particuliers dont ils étaient les propriétaires. Donc ça, c'est important parce que pendant très longtemps en Australie, on a cru qu'il n'y avait pas, que les aborigènes n'avaient pas de relation de propriété à la terre, alors que justement les mythes légitiment des droits sur certains territoires.
Tous les éléments du paysage sont reliés aux aventures des ancêtres créateurs, donc chaque colline, chaque point d'eau, chaque prairie de Spinifex est sacrée. Il en va de même pour le sous-sol. Les minerais constituent un personnage récurrent des histoires de création. Très souvent, pour les aborigènes, là où il y a une forte concentration de minerais, il y a une forte concentration d'énergie, et donc ce sont des sites hautement sacrés. On comprend mieux pourquoi le dialogue entre aborigènes et compagnies minières est si compliqué. Il en va de leur survie spirituelle. Gillian Marsh est une activiste aborigène du peuple Adnyamathna. Elle a grandi en pays Adnyamathna au sud de l'Australie, dans la ville minière de Lake Creek, une énorme mine de charbon.
Une de nos histoires de création relie la formation du minerai de charbon à nos cérémonies d'initiation. Ces cérémonies très importantes se tenaient principalement à Wilpena Pound. C'est un immense cirque naturel, bien plus grand qu'un stade de foot. Et actuellement, c'est un haut lieu touristique. Il est formé par deux crêtes rocheuses en arc de cercle. De très nombreuses tribus d'Australie méridionale se retrouvaient dans ce cirque pour les cérémonies d'initiation et d'autres échanges sociaux. Elle parcourait parfois des centaines de kilomètres pour arriver à Wilpena Pound. En quelque sorte, c'était la capitale aborigène d'Australie méridionale. Il y a un esprit créateur appelé Yurlu, c'était l'homme martin pêcheur. Il est venu du nord du pays Adnyamathna jusqu'à Wilpena Pound. Tout le long de son chemin, il a allumé des feux pour prévenir tout le monde que l'heure des cérémonies d'initiation avait sonné. Or, les endroits où Yurlu a allumé ses feux sont exactement ceux où on trouve les filons de charbon. Cette matière noire dans la terre représente pour nous les cendres des feux allumés par Yurlu. Et à la fin des années 60, nos anciens initiés, nos chefs, se sont réunis pour décider d'arrêter les cérémonies d'initiation à Wilpena Pound. L'esprit résidait dans le charbon. C'est au charbon en lui-même que nous étions liés.
Nous sommes à Roebourne, en Australie occidentale, tout près du littoral de l'océan Indien. Une région très aride et fait rarissime. Aujourd'hui, il vient de pleuvoir et ça met tout le monde de bonne humeur. C'est dans cette petite ville majoritairement aborigène que vit Michael Woodley. Prendre soin de la terre, c'est avant tout la chanter. Alors on pourrait qualifier Michael Woodley d'écologiste aborigène, car ce trentenaire dynamique recueille, enregistre, transmet depuis 10 ans les centaines de chants de son peuple, Yindjibarndi, grâce à son organisation Tuluwarlu, ça veut dire tout le monde en Yindjibarndi.
Notre peuple, Yindjibarndi, est lié à la rivière Fortescue. Dans nos croyances, la rivière a été créée au temps du rêve. À l'époque, il y avait des êtres créateurs qu'on appelle Marga. Quand ils ont quitté la terre, ils nous ont laissé des histoires, des chants sacrés et des lois. Je suis responsable de tout le pays Yindjibarndi, de tous les arbres, les animaux, les rivières, les roches. C'est une lourde tâche. Pour la mener à bien, nous devons apprendre plus de 200 chants. Nous incarnons ces chants durant les cérémonies d'initiation. On commence à chanter le soir à 19h jusqu'au lendemain matin.
Donc vous les connaissez toutes par cœur.
C'est ce qu'il y a d'admirable dans notre culture. Les chants ne sont pas écrits. Tout est dans la tête. C'est extraordinaire. Mon travail, justement, c'est de transcrire tous ces chants pour faciliter leur apprentissage par la jeune génération.
Est-ce que vous pouvez chanter l'une de ces 200 et quelques chansons?
Oui, ce titre s'intitule Yukeda. Yukeda, donc, c'est un site sacré sur notre terre, une colline couverte de fleurs blanches. Les jeunes, au moment d'être initiés, portent ces fleurs en signe de respect pour la terre. Et ce site sacré est aussi un lieu de rituel, de fertilité, car nous utilisons cette fleur sauvage blanche pour faire de la farine et fabriquer notre pain. Donc, on y va pour demander aux esprits de mettre plus de graines de cette fleur dans la terre. Et c'est important, parce que si nous ne pratiquons pas ces rites, la terre nous en tient responsable et elle peut reprendre notre vie à tout moment. Dans les années 30, nous avons été chassés de nos terres pour faire la place aux éleveurs blancs et à leurs troupeaux. Et du coup, la terre reproche aux anciens de l'avoir abandonnée. Ils ne peuvent pas retourner dans certains endroits. Ils ne peuvent pas revoir le lieu de leur naissance, ni leur site funéraire. Ils ne peuvent pas chanter telle colline ou telle rivière, parce qu'ils ne peuvent plus y accéder. Ça leur brise le cœur. Alors ils se laissent mourir.
Les aborigènes prennent soin de leur terre par le rituel du chant, mais depuis des millénaires, ils ont aussi eu une action moins spirituelle et bien plus concrète sur le paysage, presque comme n'importe quel fermier. Ce matin, Ned Chidi, un ancien Yinjibarndi, témoigne devant la caméra de Michael et de sa femme Lorraine. Pour l'occasion, ce magnifique vieillard a revêtu une chemisette orange et ensemble, ils essaient de raviver les couleurs de la mémoire et de la terre Yinjibarndi. Ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Michael Woodley.
Nous travaillons avec l'un de nos derniers anciens pour savoir à qui appartient l'une des parcelles du pays Yinjibarndi. Notre terre fait 28 000 km² et elle est découpée en parcelles. Chaque famille est propriétaire d'une colline, d'une rivière ou d'un point d'eau. Elle est responsable de ce bout de terre. Donc là, on remonte les arbres généalogiques pour savoir qui sont les propriétaires de la parcelle qui nous intéresse. Par exemple, si un groupe de familles est propriétaire de la zone de la rivière, ils ont alors la responsabilité de pratiquer des brûlis pour fertiliser la terre. Et c'est notre devoir.
Après avoir façonné la nature pendant plus de 40 000 ans, le rapport des aborigènes à la terre a radicalement changé sous l'effet de la colonisation. Comment prendre soin de la terre quand on en a été chassé, quand on n'a plus de droit dessus? Le lien à la terre se retisse lentement, très lentement, devant les tribunaux. Jessica Delargy-Haley retrace l'histoire du combat des aborigènes pour le droit à la terre.
Pour faire un peu d'histoire, quand les Britanniques sont arrivés en Australie, donc à la fin du XVIIIe siècle, ils ont considéré que le continent australien était terra nullius. Donc ce concept qui veut dire la terre de personne, en fait, a servi d'une sorte de fiction juridique. Les aborigènes étaient considérés au même titre que les animaux ou les plantes. Ils n'avaient aucune reconnaissance juridique. Et donc, ce qui a permis donc de prendre la terre, de commettre un certain nombre de massacres et de vraiment faire comme si les aborigènes n'étaient pas là. Et ils ont été déplacés dans des réserves et des missions. Et ils n'avaient pas le droit d'en sortir sans avoir des permissions spéciales.
Quels sont les droits des différents peuples aborigènes sur leur terre ancestrale aujourd'hui?
Alors, ces droits sont très divers en fonction de l'endroit où on se trouve en Australie. La législation a commencé dans le territoire du Nord, où en 1976, il y a eu une loi très importante qui s'appelle le Aboriginal Land Rights Act, qui a permis le processus de restitution d'une grande partie du territoire du Nord. Donc on parle de zones désertiques qui ne présentaient à l'époque pas vraiment d'intérêt économique pour les Blancs, jusqu'à ce qu'on trouve des minerais par exemple. Et donc, dans ces régions-là, du nord de l'Australie, les aborigènes sont aujourd'hui donc considérés comme les propriétaires fonciers de la terre, qui ont, par exemple, la responsabilité de négocier avec les mines. Et les aborigènes peuvent dire oui ou non.
Est-ce qu'ils ont déjà dit non ?
Ça arrive qu'ils disent non. Une fois qu'ils disent non, la mine doit attendre 5 ans avant de refaire une demande. On parle du territoire du Nord, là, où il y a cette législation. Un autre événement très important au niveau juridique en Australie, c'était en 1992. Il y a eu le cas Mabo. Eddie Mabo était un insulaire des îles Torres, du nord du Queensland, donc on est au nord-est de l'Australie. Et il a gagné son procès contre l'État du Queensland. Donc après cette doctrine de Terra Nullius qui disait c'est la terre de personne, c'est la première fois que le système australien reconnaissait l'antériorité de titres fonciers autochtones. Ça a été une très très grande victoire juridique qui s'est consolidée l'année suivante, en 1993, par une loi qui s'appelle le Native Title Act, donc le titre foncier autochtone, qui est ouvert à tous les aborigènes dans toute l'Australie, quelles que soient leurs circonstances de vie, de colonisation, qui permet de revendiquer leur territoire traditionnel à la condition de pouvoir prouver une continuité dans l'occupation de la terre. Il n'existait pas de titre foncier, donc signé sur papier. En revanche, ce qu'il existe, carte topographique de certains territoires, et donc dans les régions isolées de l'Australie, on ne peut pas peindre ce qu'on veut, on a le droit de peindre uniquement sa propre terre. Et donc, en peignant ces peintures, on montre en fait qu'on est propriétaire du territoire en question. Maintenant, en ce qui concerne concrètement les droits à la terre, oui, c'est très important, puisque ça leur donne à la fois le droit de retourner vivre sur leur terre, de chasser, de camper sur leur terre, et surtout, ça oblige n'importe quelle entreprise ou compagnie non aborigène de négocier avec les aborigènes pour quoi que ce soit, donc, y compris le gouvernement, ou par exemple les télécoms.
Quelle perspective s'ouvre aux peuples aborigènes reconnus propriétaires traditionnels de leurs terres ? Nous retournons dans le sud de l'Australie, en pays Adnyamathna. Les Adnyamathna viennent d'être reconnus propriétaires traditionnels d'une partie du territoire qu'ils revendiquaient. La décision a été rendue en mars 2009 et sur ce nouveau territoire, Adnyamathna, se trouve la mine d'uranium de Beverley. En juillet dernier, le ministre de l'Environnement, Peter Garrett, a donné son feu vert à l'expansion de cette mine, comme quoi ce titre de propriété ne donne pas plus de pouvoir aux aborigènes. Pour Gillian Marsh, l'impuissance de sa communauté est avant tout liée au poison de la colonisation.
As common law holders now, we still only have the right to negotiate compensation. We don't have the right to.
Le fait que nous soyons désormais reconnus comme propriétaires traditionnels ne nous ouvre pas des droits nouveaux. On a seulement le droit de négocier des compensations financières avec les compagnies minières, mais on n'a toujours pas obtenu le plus important, à savoir un droit de veto. De toute façon, une partie de notre communauté souhaite continuer à négocier sur nos royalties et donc accepter de faire des compromis sur l'utilisation de nos terres. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, il peut s'agir d'aborigènes qui ne se sentent plus liés à leur terre. Il y a une réelle rupture dans la transmission de notre culture. Et puis, il y a d'autres aborigènes qui se disent que de toute façon, ils ne seront jamais écoutés sur la façon d'exploiter la terre. Donc ils s'opposent. Ils sont stigmatisés en tant qu'agitateurs par les compagnies minières, par le gouvernement, mais aussi au sein même de la communauté. Dans les deux cas, c'est un héritage de la colonisation et des déportations qui ont atteint les aborigènes non seulement physiquement, mais aussi mentalement, et particulièrement nos anciens. Ils n'arrivent pas à revendiquer leurs droits en tant qu'aborigènes. Ils n'arrivent pas non plus à expliquer ce qu'ils attendent des compagnies minières et du gouvernement. Ils trouvent ça très agressif, parce qu'ils ont été habitués à écouter les Blancs. C'est le résultat de leur éducation dans les réserves et les missions. Vous savez, notre terre Adnyamathna n'a été colonisée qu'il y a 100 ans. C'est tout neuf pour nous. Du coup, c'est à la génération de ma mère que la rupture culturelle s'est faite. Ce sont eux qui ont le plus souffert de la colonisation. Il faut savoir que jusqu'en 1967, les aborigènes n'étaient pas reconnus comme des citoyens à part entière de ce pays. Avec ma génération, les choses évoluent. Nous sommes maintenant à mi-chemin entre la colonisation et l'autodétermination.
Mais comme toujours, c'est le facteur économique qui prime, car la plupart des Adnyamathna vivent dans la pauvreté avec des aides de l'État. Gillian Marsh.
Mining companies know that they can coerce some people within the communities by offering them money.
Les compagnies minières peuvent toujours compter sur l'avidité de certains membres du comité Adnyamathna. Pour obtenir leur soutien, une bonne partie de l'argent des royalties a été détournée sur le compte bancaire de certains Adnyamathna. Tout cela pour mieux diviser la communauté. Les gens de ma communauté me disent qu'ils ont touché de l'argent et les compagnies minières continuent à les corrompre. La seule façon de sortir de ça, c'est de renforcer la compréhension des accords passés avec les compagnies minières. Donc, il nous faut des avocats indépendants, pas des avocats qui se payent en touchant un pourcentage du montant des royalties négociés avec la compagnie minière. Et on ne peut pas compter sur le gouvernement, qui affiche honteusement son alliance avec la compagnie minière. Tout cela avec la participation de certains de nos représentants au sein du comité aborigène, qui touchent de l'argent, soit de la compagnie, soit du gouvernement.
La situation semble donc assez désespérée, mais l'alliance Green Power et Black Power va peut-être changer la donne. Il y a eu un précédent, la victoire historique de Jabiluka en 1998 dans les territoires du Nord. Les activistes aborigènes Mirar et les écologistes ont réussi à bloquer pendant 8 mois les activités de la mine d'uranium de Jabiluka, située dans le parc national du Kakadu, lequel est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La compagnie minière a dû abandonner l'exploitation et la réhabilitation du site a même commencé en 2003. Mais attention, prévient l'anthropologue Jessica Delargy-Haley, les intérêts de ces deux pouvoirs, le noir et le vert, peuvent aussi parfois diverger.
Les aborigènes vivaient dans leur environnement quand même, donc il n'y avait pas cette question de protéger la nature. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre de conflits, il y a encore en Australie, entre les écolos justement et les aborigènes, Black Power et Green Power, le pouvoir vert et le pouvoir noir, parce que par exemple il y a certaines zones que les écologistes considèrent comme étant des zones qu'il faut protéger à tout prix, en les transformant en parcs naturels parce que c'est considéré comme wilderness, on dit en anglais des zones sauvages qui n'ont pas été touchées par l'homme. Mais cette question de nature sauvage intouchée est quelque chose qui n'existe pas dans la pensée aborigène. Donc le fait de préserver un endroit pour que personne ne puisse y aller, ça veut dire les protéger aussi des aborigènes. Donc, il y a aussi en ce moment un conflit assez important dans la péninsule du Cap York, donc au nord-est de l'Australie, où il y a un système de rivières où les écologistes ont demandé que ce soit protégé comme patrimoine de l'humanité, je crois. Et les groupes aborigènes en question, pas tout le monde, parce qu'encore une fois, les aborigènes, c'est pas un bloc monolithe, critiquent beaucoup cette décision, puisque en protégeant cette région, ça veut dire qu'eux ne peuvent pas créer donc une industrie de pêche. Donc selon ces critiques aborigènes, on coupe les communautés d'une ressource économique potentielle dans une région où il y a très peu d'emplois et très peu de possibilités de développement économique.
L'activiste aborigène et militante antinucléaire, Gillian Marsh, n'a pas le même point de vue. Le mouvement antinucléaire mondial lui a remis le Free Future Nuclear Award fin 2008. C'est le prix d'un avenir sans nucléaire. Et pour elle, seule une alliance entre les aborigènes et les écologistes permettra de sauver ce qui reste des terres et des cultures aborigènes.
That was in about 1998.
En 1998, on a formé une alliance entre les groupes aborigènes de toute l'Australie et des mouvements écologistes, comme les Amis de la Terre et la Fondation australienne pour la conservation. On a compris qu'on luttait contre les mêmes abus. On n'a pas exactement le même raisonnement. Les écologistes agissent en fonction des connaissances scientifiques occidentales sur l'impact du développement industriel. Et nous, les aborigènes, nous avons une autre vision du monde. Nous avons notre propre science qui nous dicte comment exploiter nos ressources. Mais on arrive finalement à la même conclusion.
Quelle est votre action pour unifier les peuples aborigènes ?
Dès le départ, on a décidé de ne pas se limiter au nucléaire. On utilise l'alliance pour d'autres causes, comme la lutte pour les droits aborigènes. Mais c'est là que j'ai découvert que bien que nous ayons des terres, des langues, des coutumes et des systèmes de parenté différents, la seule chose qui relie tous les peuples aborigènes aujourd'hui, c'est l'impact des compagnies minières sur nos terres.
C'est
un nouveau lien qui nous unit. Une problématique contemporaine qui repose sur le néocolonialisme des compagnies minières. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent sur nos terres, mais nous pouvons lutter ensemble contre ça.
We have to be mature enough to work through that, and it's very difficult.
C'était les aborigènes d'Australie. Sur ce reportage de Caroline Lafargue se termine pour aujourd'hui votre rendez-vous avec l'environnement. Nous nous retrouverons demain avec un dossier qui sera consacré aux positions africaines à Copenhague. À demain donc, même planète, même heure.